Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 7 février 2019. Placez vos micros devant votre bouche, les amis, parce que je vais vous demander de parler dans quelques instants. Ici,
oui,
c'est
oui.
Yvan Delaurier qui est au micro, qui va diriger cette équipe de feu.
Diriger, toi.
Oui.
Bon, on en discutera.
Il y a des gens. Ouais. Alors, aujourd'hui, quels sont les sujets pour la première partie, Marie?
Alors, moi, je vous présente d'abord une...
Marie, que je n'ai pas présentée.
Bonjour.
Bonjour, Marie.
Moi, je vous présente d'abord une chronique d'humeur. C'est une enseignante, une maman, qui fait une petite montée de lait sur le fait que les enfants sortent dehors de moins en moins.
Alors, quand tu fais
aux
ça,
récréations.
C'est... Quand tu fais ça, c'est toujours drôle.
Ben là, oui. Ensuite, un contre-exemple, une école où on a décidé d'agir autrement par rapport à ça. Mm-hmm. Et un tout petit texte qui nous parle d'une recherche à propos des enfants qui vivent dans des foyers où on apprend deux langues,
oui,
et qui seraient plus attentifs que les autres.
Ah bon?
Oui.
Merveilleux.
D'accord. Et je vous présente Monique Kirouac.
Bonjour.
Qui elle-même va nous présenter ses sujets pour la première partie de ce matin.
Alors, c'est un sujet pour la première partie.
Oui.
Alors, si je vous pose la question, outre Confucius, y a-t-il d'autres philosophes chinois qui sont encore importants aujourd'hui?
Quand j'ai écrit ton titre hier...
Oui.
J'étais tellement surpris qu'il y avait d'autres personnes que Confucius.
Eh oui, alors je vous en parle.
Et pour ma part, c'est le mois de février.
Oui.
Et habituellement, au mois de février, il y a plein de choses intéressantes à faire dehors.
Oh.
Alors je vous en
D'accord.
parle. C'est notre menu pour la première partie.
Entre autres, ne pas glisser.
En fait, Monique, ce serait glisser si on veut glisser, mais pas glisser si on veut pas glisser.
Ouais, exactement.
C'est-tu
oui,
clair,
c'est
ça?
Ah, oui, oui, moi, je comprends tout à fait.
Marie vient nous sauver.
Oui, alors je vous présente un
aller
texte.
Aller jouer dehors dans le cours, tout ça là?
Aller ou ne pas aller jouer dehors.
Ah oui.
En fait, le titre exact, c'est « Les enfants de porcelaine ». C'est un texte qui a été écrit par Laurence Mercier, qui est maman et enseignante à la CSDM. Ça a été publié dans Le Devoir le 2 février. On est au Québec, en janvier. Bon, figurez là, que ça a été écrit en janvier, mais c'est encore valide aujourd'hui.
C'est pas mal semblable.
C'est lundi matin. Les enfants ont hâte d'aller jouer dehors dans cette magnifique neige immaculée. Mais non, les cocos, aujourd'hui, vous n'irez pas dehors car il fait trop froid. Oui, je sais que la semaine dernière, vous n'y alliez pas parce qu'il y avait trop de glace. Je sais que cet automne, vous n'y alliez pas souvent à cause de la pluie et que ce printemps... Vous n'irez pas, parce qu'il y aura trop d'eau accumulée. Je sais tout ça. Et si vous saviez combien j'en suis désolée. Ce matin, votre maman est partie enseigner dans son école. Elle avait prévu de profiter de sa surveillance en après-midi pour laisser aux élèves de sa classe la chance de jouir d'une récré prolongée. On en avait parlé dans l'auto en route. Il y aurait de beaux forts de neige à construire dans toutes les cours d'école de la région. Enfin! Mais non. Maman n'est pas sortie, et vous non plus, les amours. Et tout ça parce qu'on a décidé de suivre une charte plutôt que notre gros bon sens. Je me rappelle, étant petite, que ma mère m'interdisait de mourir ou de me blesser sérieusement.
Mourir sérieusement?
Oui,
oh là
oui.
là! Je vais essayer ça.
Mais si tu meurs sans te blesser, ça c'est correct.
En fait, je ne sais pas, il faudrait okay. demander à sa mère. Je promettais... Sachant que ce n'était pas totalement de mon ressort, mais je comprenais ce que ma mère cherchait à m'enseigner. J'étais responsable de ma propre sécurité. Son interdit avait ceci de joli, c'est qu'il disait tout l'amour du monde qu'elle me portait tout en me permettant de me prendre en main. Aujourd'hui, lorsqu'on interdit, c'est simplement pour faire plus simple. On a tellement perdu confiance en l'être humain qu'on estime qu'il faut mettre de plus en plus de lois pour l'encadrer. L'accident est devenu inacceptable, alors on tente de tout contrôler, faisant de l'humain un mouton plus mouton qu'un mouton lui-même. Du pré, surveillé par les chiens, nous sommes rendus à l'enclos, et l'enclos rétrécit de plus en plus. Chez les, mettez des guillemets, grands, on ajoute des panneaux. Selfie interdit dans cette zone, limite de vitesse à 30 km/h, baignade interdite, etc. On produit des publicités percutantes, on réglemente les opinions et on censure l'art. Chez les, mettez des guillemets, petits, on interdit. Pas de jouets de la maison. Les billes, les cartes et toutes ces collections amènent des échanges qui entraînent des conflits à gérer. Et ça, c'est non. Pour dire, on a même envisagé d'interdire le soccer parce qu'il créait trop d'animosité. Pas de jeu, ouvrez les guillemets, robuste, ça peut faire mal. Pas de collations sucrées, c'est mauvais pour la santé. Pas de bonbons à l'Halloween pour la même raison. Pas de sac en plastique pour les repas, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Et maintenant, on a tellement peur qu'un parent se plaigne que son enfant tousse. Voyons, en plein mois de janvier, lui qui prend son smoothie protéiné tous les matins, qu'on préfère que les élèves restent tous à l'intérieur au lieu d'aller jouer dehors 15 minutes.
Dans leur microbe.
15 minutes, oui, dans leur microbe. Pour certains, c'est le temps de marcher jusqu'à l'école. Et ils s'y sont pourtant rendus. Les chéris, maman va vous chercher tôt ce soir. On va jouer dans la cour de 30 à 45 minutes. Ça va nous faire du bien de nous aérer. On va pouvoir faire les devoirs après, en étant un peu reposé mentalement. On va s'ouvrir l'appétit et on va dormir mieux ce soir. Avoir su, on aurait pris congé et on se serait fait un match de hockey dans la ruelle. Vous auriez appris à être des enfants, à rire, à prendre soin de vous, à jouer et à régler vos conflits. Oui, c'est vrai, il fait frette, mais maudit qu'on s'amuse quand on est bien habillé. On y est en janvier ou en février au Québec. On en profite. Mm-hmm. Alors, merci à Laurence Mercier de la CSDM qui a publié ça dans Le Devoir au début février.
Un petit bravo. C'est vraiment un bel article. Alors, une vedette de la télévision aurait dit « comme dirait Confucius ».
Exactement. Mais je vais vous parler d'un autre philosophe, en fait. C'est un article de Martin Lassalle qui a été publié dans le forum de l'UdeM du 31 janvier dernier. Et en fait, c'est la pensée de Motzeu. Et ça s'écrit M-O-Z-I, mais le Z-I se prononce « ce ».
Ah,
on apprend quelque chose.
Oui. Moi, je pensais que c'était maudit.
Ah non, c'est Motzeu.
Okay.
Alors, si donc je vous demandais de nommer un ou deux grands philosophes de la Chine antique, il est probable, comme vous l'avez fait, que vous me nommeriez Confucius. Mais il y en a un autre qui vient souvent aussi à l'esprit, c'est Lao Tzu, qui est le fondateur du taoïsme, qui a écrit le livre sacré... Non, ça, c'est pas la...
Non, je me trompe.
C'est pas l'art de la guerre. Lui, il a écrit le livre sacré et de la voix et de la vertu.
Et il a été long, il a été plusieurs fois cité dans Tintin.
C'est possible, oui. Ça va me revenir, l'art de la guerre. Okay. Ça ressemble, mais c'est pas là au-dessus. Mais vous connaissez probablement pas Motzeu.
Non.
Pourtant, il y a une chercheure de l'Université de Montréal qui a traduit directement du chinois classique plus de 600 pages les différentes doctrines de Motzeu sur notamment l'art de gouverner, la défense de l'État et la culture religieuse, ainsi que ses réflexions logiciennes et scientifiques. Mm-hmm. Et cette chercheure, c'est Madame Giglione, qui est professeure au département de philosophie de l'Université de Montréal. Alors, le Motzeu avait déjà été traduit dans différentes langues, mais pas du chinois vers le français de façon intégrale. Mmh. Et paraît-il que c'est une lacune vraiment majeure parce que Motzeu est un philosophe comparable à Aristote. Il a vécu entre 470 et 381 avant notre ère et fut l'un des penseurs les plus importants de la Chine antique. Et surtout, on le reconnaît comme celui qui a contesté, en fait, qui a remis en question le confucianisme.
Ah,
c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. On n'aime peut-être pas cette réaction qu'il a eue. Le point de divergence entre ces deux philosophes, donc Confucius et Motzeu, c'est que ce Motzeu priorisait la raison d'État plutôt que le dévouement envers la famille. La doctrine la plus connue du moïsme, c'est celle de l'amour universel. Et là, on ne parle pas de sentiments et d'émotions. C'est le fondement de toute action morale. L'amour universel de Motzeu suppose la primauté du bien commun sur les intérêts personnels et il repose sur un souci d'équité et de stabilité pour éviter, entre autres, les conflits et la guerre. Mmh. Intéressant,
oui, c'est très.
Ça s'approche du communisme, en fait, non? On n'ira pas jusqu'à là?
Non, je pense pas. La vision du travail de Mottieu était aussi très moderne. Le travail, selon lui, devait être pratiqué en dehors des murs de la maison et par tous les membres de la société, incluant les femmes. Mmh. Le dynamisme du travail qu'on observe aujourd'hui en Chine présente, selon la traduction en fait qui en a été faite, un lien de continuité avec la doctrine maoïste, tout comme la vision positive de l'innovation technologique et de la science. Mmh. Donc déjà quelques 300 ans avant notre ère. Le Moti est l'un des rares textes chinois à réunir des éléments de philosophie des sciences, d'épistémologie et de logique. Il présente aussi des définitions de physique, d'optique et de mécanique. Donc, c'est pas banal. Hein? Mm-hmm. Comme effet, je dirais, découlant de tout ça, près de 2500 ans après sa mort, le maître fondateur de l'école maoïste, il est perçu comme un personnage emblématique du développement scientifique et technologique en Chine. À titre d'exemple, le satellite quantique que la Chine a mis en orbite en 2016 porte son nom. La lecture de Mottieu n'est pas seulement indispensable pour connaître le paysage philosophique de l'Antiquité, mais elle permet aussi de mieux comprendre les valeurs de la société chinoise contemporaine. Alors, je vous invite à lire ces 600 pages. Mmh. C'était donc un article écrit par Martin Lassalle pour le journal Forum du 31 janvier 2019. Et l'article s'intitulait « La pensée de Mottieu traduite en français, le maître chinois qui a contesté le confucianisme
mmh. ». Ah. Vraiment, merci.
Sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frissons jurons, les longues nuits, les caleçons longs. Nous nous collerons tous les deux, désormais pour nos beaux yeux. Nous nous trouverons une voiture. Exceptionnel. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je te refilerai le volant chassant.
Thank you.
Charlotte Cardin écrit, nous chantait « Fou n'importe où ».
Très, très, très belle chanson. Merci beaucoup, Maurice. Alors moi, je vous fais sortir au mois de février. Ben, je vous ai fait sortir au mois de janvier aussi, là, mais je vous parle de 5 activités qu'on peut faire en famille, à l'extérieur, au mois de février. Il y a certaines que vous allez reconnaître facilement. Alors, ça serait bien dommage de ne pas profiter et passer du bon temps en famille, surtout que Marie, tantôt, tu nous as dit qu'aller jouer dehors bien habillée, ça avait beaucoup de sens.
Ça fait beaucoup de bien.
Alors, vous avez simplement besoin d'enfiler vos habits de neige et faire le plein de chocolat chaud à la maison pour vous réchauffer à votre retour. Ça commence à Québec.
T'es un pocheur de chocolat chaud, hein?
Oui, oui.
Il
oui,
n'y a pas un article où tu oui, ne parles pas
de
chocolat
hein?
chaud.
L'un des plus grands et populaires événements hivernaux du mois de février au Québec est sans doute le Carnaval de Québec.
Ah, oui.
Ça va avoir lieu, mon Dieu, demain, du 8 au 17 mm-hmm. février dans la capitale nationale qui rayonne avec sa tonne d'activités pour petits et grands. La programmation est tellement vaste que vous trouverez certainement des activités qui plairont à l'ensemble de la petite famille. Et si vous ne pouvez profiter du carnaval que pour une seule journée, celle où a lieu le défilé, il y en a deux, c'est le 9 et le 16 février, sont une excellente option et Bonhomme est toujours de la partie. Si vous voulez faire des choses un peu plus actives, bien actives, ça dépend comment on voit ça, vous pouvez aller à la pêche aux petits poissons des chenaux. Parce que le mois de février, c'est le mois tout indiqué pour aller à Saint-Anne-de-la-Pérade. Le site est composé de 500 chalets de pêche. Vous pourrez apprendre à taquiner le poisson. C'est une drôle d'expression, ça. Taquiner le poisson tout en profitant d'un bon feu de foyer au bois dans votre chalet. Des patinoires sont aussi accessibles pour aller vous dégourdir les jambes quand les poissons sont moins coopératifs.
Je pense que c'est pire que l'igloo, ça. Hein,
oui, je vois vos réactions, puis je me dis...
On attend l'autre suggestion.
Oui, c'est ça. On a mieux joué vraiment dehors. Ouais.
La prochaine, là, je vous la vends, c'est sûr, parce que j'ai vécu 8 ans dans l'Outaouais. Et c'est l'époque du bal des neiges à Ottawa.
Ah, ben oui.
Et là, la capitale canadienne célèbre l'hiver chaque année en février avec le bal de neige. Vous pourrez patiner sur le canal Rideau, qui est la plus grande patinoire extérieure au monde, admirer les impressionnantes sculptures de glace et aller glisser, pour vrai, parce qu'on veut glisser, au parc Jacques-Cartier, au centre-ville de Gatineau. Impossible de vous ennuyer dans cette région pendant les 3 premières fins de semaine de février. Donc, ça a commencé en fin de semaine dernière. Mm-hmm. On est dans le milieu présentement et ça se termine la fin de semaine prochaine. Si vous avez des ados qui sont moins chauds à l'idée d'aller jouer dans la neige, proposez-leur le festival Montréal joue. La 7e édition de cet événement commence le 23 février et se poursuit durant le mois de mars. J'imagine que ça couvre la semaine de relâche.
Mm-hmm, tout à fait.
Le festival propose plus de 300 activités ludiques qui se dérouleront un peu partout à travers la ville, dont dans 45 bibliothèques de Montréal. Ce n'est peut-être pas à l'extérieur, mais au moins, ça les fera sortir de la maison un peu. Alors, c'est du 23 février au 10 mars à travers la ville de Montréal. Et finalement, je vous amène à Saint-Donat, un endroit que j'ai appris à aimer beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Tous les week-ends du mois de février seront sous le signe des festivités à Saint-Donat. Sculptures sur neige, randonnées en raquettes, il y a des superbes circuits de randonnée là-bas, patinage sur glace dans des sentiers, spectacle de la descente au flambeau sur les pistes de ski Garneau. Il y en aura pour tous les goûts. Et avant de quitter le beau village de Saint-Donat, là, je m'éloigne un peu du chocolat chaud, mais j'y reviens tout de suite. N'oubliez surtout pas de passer à la boulangerie pour faire le plein de tartes.
Mmh.
Alors ça, c'est tous les week-ends de février dans la région de Saint-Donat. C'était 5 sorties à faire en famille en février pour profiter de l'hiver dans le site Coup de pouce du 1er février. Puis Marie veut ajouter
quelque
chose.
Moi, j'ai le droit de veto aussi. Moi, c'est pas les tartes, la boulangerie à Saint-Donat, c'est le pain. Honnêtement, le pain est excellent.
Oui. Bon, allez à la boulangerie.
Ben oui,
c'est ça.
ça. Alors Marie, j'aime bien ton premier, ta première intervention. Tu fais deux courtes interventions, mais ta première, je l'aime particulièrement à cause de ce que tu as lu tantôt.
Ben oui, tout à fait. Alors je vous disais, c'est un contre-exemple. C'est une école qui a instauré une zone où les enfants peuvent se chamailler. Alors, je vous lis ça. De nombreuses écoles primaires interdisent aux élèves de se chamailler dans la cour, mais un établissement de la région de Québec a décidé d'aller à contre-courant en déterminant plutôt une zone où les enfants sont encouragés à le faire. Mm-hmm. Appelée zone d'activité ludique turbulente. On peut rire.
On s'en va dans des turbulences.
Oui. Elle permet aux jeunes de la maternelle à la quatrième année de l'école des 80 à Saint-Apollinaire de se chamailler tant qu'ils restent dans un périmètre défini par des cônes orange. Ils ont le droit de s'agripper, de se tirer, de se rouler l'un par-dessus l'autre, de s'empiler, mais il faut toujours garder en tête que c'est volontaire et que si un enfant veut se retirer, il utilise le mot magique « stop ». C'est la directrice de l'école, Shirley Bernier, qui explique. Elle ajoute « ce n'est pas une zone de règlement de compte ». Il n'a pas été envisagé de permettre aux 480 enfants de l'école de se chamailler dans toute la cour d'école puisque ça aurait pu causer trop de blessures, croit la directrice. On veut leur permettre de se chamailler, mais dans un endroit sécuritaire et surveillé par des enseignants ou des éducatrices en service de garde. Et c'est toujours la directrice qui ajoute ces détails. Malgré les nombreuses précautions qui ont été prises, l'initiative a suscité des craintes chez certains parents. Quand on a ouvert la zone, on a eu des messages de parents qui nous disaient « Enfin, vous laissez les enfants être des enfants ». Mais en janvier, ils ont eu des messages de parents inquiets qui avaient peur que leurs enfants se fassent mal. La direction ne voit pour l'instant que des avantages à cette nouvelle zone, surtout chez les petits, qui ont davantage besoin de faire du corps à corps, comme de la lutte, souvenir d'enfant ici. Quand les élèves reviennent en classe, ajoute la directrice, ils sont plus disposés à apprendre. Alors moi, je remercie Marie-Ève Maurras de La Presse qui a publié ce court texte le 18 janvier dernier.
Et là, on poursuit avec si on avait élevé nos enfants de façon bilingue.
Oui, en fait, les gens qui le font,
ils seraient plus attentifs.
Ça permettrait de penser que les bébés de ces foyers bilingues seraient plus attentifs. Okay. En fait, j'ai trouvé cet article-là dans La Presse le 30 janvier et il n'y a pas d'auteur spécifié. C'est La Presse canadienne de Toronto qui a publié ça. Une étude indique donc que les bébés vivant dans un milieu où plus d'une langue est utilisée sont plus attentifs que les nourrissons qui n'en entendent qu'une seule. Des chercheurs de l'Université York à Toronto estiment que cet avantage en matière d'attention peut se manifester dès l'âge de 6 mois et pourrait générer des avantages cognitifs à long terme. C'est une recherche qui a été publiée la semaine dernière dans la revue Developmental Science. La recherche a mesuré les mouvements oculaires des bébés pour évaluer leur attention et leur apprentissage. La moitié des enfants étudiés étaient élevés dans un environnement unilingue, tandis que l'autre moitié entendait deux langues à la maison. Des images ont été montrées aux bébés alors qu'ils se trouvaient dans un berceau équipé d'une caméra et d'un écran. Leurs mouvements oculaires ont été suivis pendant qu'ils regardaient des images apparaître au-dessus d'eux dans différentes zones de l'écran. Les chercheurs ont constaté que les nourrissons vivant dans un foyer bilingue étaient plus aptes à prévoir où l'image cible apparaîtrait par rapport à ceux élevés dans une seule langue. La co-auteure Hélène, ou je ne sais pas comment, mettons Hélène, on va l'appeler Hélène, Bialystok, affirme que la différence entre les individus unilingues et bilingues plus tard dans la vie ne réside pas dans les langues apprises, mais dans le système d'attention utilisé auparavant pour se concentrer sur la langue. Cette étude nous dit que dès le début du développement, les réseaux cérébraux sur lesquels se base l'attention se forment différemment chez les nourrissons élevés dans un environnement bilingue, a déclaré l'éminente professeure et chercheuse en psychologie. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que l'attention est la base de toute la cognition, ajoute la chercheuse. Alors voilà, on peut trouver cet article dans La Presse du 30 janvier dernier.
Mmh. Fait que, dès que tu as mis tes lunettes, on peut commencer. OK. On a quelques minutes pour des brèves. Alors, Monique, tu commences le bal.
Oui. Est-ce que les cheveux, ça pousse indéfiniment?
Bonne question.
Eh bien,
ça
non.
Change de couleur, en tout cas?
Ben, non, ça ne pousse pas indéfiniment. Si on ne va pas chez le coiffeur, les cheveux cesseraient de s'allonger au bout de 7 ans.
7 ans?
Alors, la vitesse de pousse, il faut retenir, varie en fonction du sexe, du taux d'hormones et de l'ethnie. C'est le cheveu asiatique qui croît le plus vite, à raison de 1,3 cm par mois. Le record de longueur de cheveux, 5,50 mètres, est d'ailleurs détenu par une Chinoise.
5 mètres ouais, de cheveux?
C'est long, ouais. Longtemps, ça.
Ça fait des tresses, ça, madame?
Oui.
Marie,
oui,
tu alors, nous amènes où, toi?
Oui, ben des loisirs pour tout le monde. En fait, Joey, J-O-O-A-Y, c'est un site et une application qui aide les parents d'enfants qui ont un handicap physique ou intellectuel à trouver des loisirs proches de chez eux, adaptés aux goûts, aux besoins et aux capacités de leurs enfants. Les activités sont classées en 4 catégories, art, camp, sport et autres. Les parents utilisateurs peuvent aussi proposer des activités qui ne sont pas encore répertoriées pour les ajouter à la liste. Le site est en anglais, mais l'application très claire est disponible en français sur l'App Store et sur Google Play.
OK.
Alors, j'ai parlé des cheveux. Maintenant, je vous parle des ongles.
Oui, vas-y.
Mais ça ne cesse jamais de s'allonger.
Mais ça ne change pas de couleur, c'est pas grave.
C'est que les cellules spécialisées produisent en continu de la kératine. C'est une protéine qui confère à l'ongle sa rigidité et que l'on retrouve également dans les cheveux et dans la peau. En moyenne, les ongles des doigts gagnent 3 mm par mois contre 1 cm pour les cheveux. Et contrairement à l'idée très répandue que les ongles des enfants ne poussent pas plus vite que ceux des adultes, c'est entre 20 et 30 ans que leur croissance est la plus rapide. Ah, vous êtes plus savant.
Ah oui, je suis étonnée. Vas-y, Marie.
La neige, c'est la lune qui fond, selon Flore, qui a 4 ans.
Oh,
c'est
oui.
Joli, hein?
Oui, mais
et
là...
le verglas, c'est quoi?
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est pas écrit.
Elle fond pas, elle pleure présentement.
Oui, c'est ça.
Alors, on se prend 15 secondes pour aller chercher un petit café, un petit verre de lait... Puis on revient avec d'autres articles qui nous ont intéressés dans la dernière semaine. Alors, nous revoici à travers vents et marées pour cette deuxième partie de l'émission Les Voix de Service Magazine du 7 février 2019. Monique, tu interviens plus, je pense, dans la deuxième partie.
Ben, j'ai 2 articles à lire.
Et le premier... Que nous diront-ils?
Je vous amène dans des zones très, très variées. Mm-hmm. Vous avez peut-être entendu parler du régime cétogène?
Juste entendu parler.
Mm-hmm. Est-ce qu'il est aussi miraculeux
que certains le disent
ou veulent bien le croire? Et le deuxième article, eh bien, les médicaments placebo, les prescrire ou non?
Oui, ça j'ai hâte. Cétogène, j'ai juste peur que tu me dises que c'est un bon régime puis je vais être pris pour le faire après. Ça m'achale.
Ne vous inquiétez pas, chère amie.
Marie.
Alors moi, c'est la semaine des enseignants cette semaine. Alors je vous présente un hommage aux enseignants.
Oh, ça va être vraiment intéressant aussi. Et de mon côté, je vous fais part d'un article de Marc Cassivi qui nous dit tout simplement que faire d'exercice, c'est bon pour le moral. Alors, on commence. Alors, Monique, j'attends ton article avec un peu de crainte.
Oh, comme je disais, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un article de Keira Betayeb pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019 qui s'intitule « Le régime cétogène est-il aussi vertueux qu'on le dit? » Alors, régime cétogène, ça veut dire charcuterie, poisson gras, huile, beurre, fromage, crème fraîche, avocat, noix.
Non, mais là, ça commence à m'intéresser.
Déplaire, hein? Ouais. Donc, il est constitué de 70 à 90 % de lipides. Quand on parle de lipides, c'est les gras.
Ben oui.
Et de 5 à 15 de glucides, les sucres, soit des proportions totalement inversées par rapport à une alimentation classique, où on retrouve 25 à 35 % de lipides et 45 à 50 % de glucides. Ce régime a été développé pour, d'abord pour les personnes épileptiques. Et aujourd'hui, on le vante, c'est complètement fou, parce qu'on pourrait perdre du poids, on pourrait améliorer nos performances sportives à partir de ce régime-là. Deux études ont même suggéré qu'il pourrait allonger la vie et améliorer la mémoire.
Mais on remarque l'utilisation du conditionnel dans les temps du verbe, hein?
Voilà, ça, c'est moi, en fait.
Ah oui?
Privé de glucides, ça, c'est la source d'énergie habituelle. Le corps se met à dégrader, en fait, à manger les graisses dans le foie par le processus de cétogénèse et à fabriquer des petites molécules énergétiques qui sont les corps cétoniques. Alors, pour certains nutritionnistes, en obligeant l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse, ben, c'est ça qui fait perdre du poids. Chez les sportifs, la stabilité du taux de glucose dans le sang, ce qu'on appelle plus scientifiquement la glycémie, éviterait les baisses d'énergie. Mm-hmm. D'autres nutritionnistes parient même sur cette réduction de la glycémie pour lutter contre le diabète de type 2, voire estiment qu'une réduction importante des apports en glucides affame les cellules cancéreuses. Mm-hmm. D'après une autre hypothèse, l'évolution de certaines maladies neurodégénératives, on pense à l'Alzheimer, le Parkinson, les cellules cérébrales peinent à utiliser le glucose, donc ça ralentirait ces maladies-là. Donc, toutes les vertus sont sur la table, comme vous pouvez voir. Sauf que, pour l'instant, l'efficacité du régime cétogène n'a pas été rigoureusement démontrée. Ça a été fait, en fait, strictement que pour certaines épilepsies sévères de l'enfant, ainsi pour des maladies métaboliques très rares. Concernant l'éventuel pouvoir amaigrissant de ce régime, il y a plusieurs travaux, tels que ceux de l'équipe britannique d'Alexandra Johnston, ont montré sa supériorité par rapport à un régime pauvre en gras. Le problème, c'est que les protocoles ne sont pas assez fiables, et d'autres travaux, comme ceux qui ont été faits par Kevin Hall en 2016, viennent contredire ces recherches-là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... pour nous, c'est confondant.
Ben oui. Okay.
En 2014, il y a une équipe chinoise qui concluait que le régime cétogène était efficace contre le cancer, mais le cancer des souris.
Ah bon?
Et les souris sont pas totalement... les résultats, en fait, sur les souris, c'est pas transposable totalement à l'homme parce qu'on n'a pas le même métabolisme que ces rongeurs-là. Il y a deux autres études récentes qui suggèrent que ce régime pourrait améliorer, comme je disais tout à l'heure, l'espérance de vie et la mémoire. Bien qu'elles semblent sérieuses, elles portent aussi sur des souris.
Mm-hmm.
Donc, en attendant les études sur l'homme, les chercheurs nous disent que la prudence s'impose. Donc, vous pouvez ralentir vos ardeurs, cher Yvan. Et comme c'est une diète qui est très déséquilibrée, comme vous avez pu le constater, si elle n'est pas surveillée et supplémentée, elle peut provoquer des troubles plus ou moins graves, surtout chez des personnes déjà atteintes d'une certaine maladie.
Ouais. Okay.
Donc, c'était un article de Keira Betayeb pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019.
Merci beaucoup. Alors, l'article dont je vais vous lire des extraits n'est pas très éloigné de ce qu'on vient d'entendre, vous allez voir. Ça s'intitule « C'est bon pour le moral ». Là, j'entends la chanson dans ma tête. Oui, c'est ça. De Marc Cassivi dans la presse du 3 février 2019. Officiellement, c'est une micro-déchirure à l'ischio-jambier qui m'empêche de courir depuis 3 semaines.
Mm-hmm.
Une blessure que je me suis auto-diagnostiquée après un match de hockey. Officieusement, le vortex polaire et son facteur vent n'ont pas contribué à ce que je me rétablisse plus promptement. Courir à moins 10 centigrades, bien habillé, toujours partant, courir à moins 25 dans le vent, pas tellement. La bonne nouvelle est venue sous la plume de ma collègue Marie Tison cette semaine, ou la semaine dernière en fait. Faire de l'exercice ne fait pas maigrir, ou si peu. De quoi se réconcilier avec ces quelques kilos en trop accumulés pendant les fêtes?
Surtout si on arrête à la boulangerie à Saint-Donat.
Voilà.
Mais oui,
ou chez McDonald's.
Mais c'est bon dans la bouche. J'aurais couru 50 km par semaine, mon régime estival habituel, que mon tour de taille n'en aurait rien su. Si, en théorie, brûler des calories par un exercice soutenu devrait favoriser la perte de poids, les experts s'entendent pour dire, puis ça a été vraiment mesuré, que ce qu'il y a de mieux pour faire osciller l'aiguille du pèse-personne vers le bas, c'est de surveiller ce qu'il y a dans son assiette. Ceux qui s'entraînent ont tendance, sans que je vise personne, ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent manger par la suite, annulant par une collation bien méritée la dépense calorique de leur course, nage ou séance de spinning matinale.
C'est le principe de la récompense.
Oui, que j'applique régulièrement d'ailleurs.
Oui.
Limiter l'apport calorique à la source a des effets plus directs et concrets. L'exercice n'est pas le meilleur moyen de maigrir, donc... Mais que l'on ne s'y trompe pas, il est extrêmement bénéfique pour la santé. On vit plus longtemps et en meilleure santé lorsqu'on fait de l'exercice, je le dis à tous les jeudis. Le consensus médical en la matière est indiscutable. En revanche, la sédentarité, selon une étude publiée à la mi-janvier, aurait des effets plus nocifs sur la santé que le tabagisme. Les chercheurs de la Cleveland Clinic aux États-Unis ont analysé les résultats de 122 000 patients ayant participé à des tests physiques sur tapis roulant entre 1991 et 2014. Il ne s'agissait donc pas de simples sondages auxquels on peut répondre en exagérant le temps que l'on passe à faire de l'exercice. Aveu ici, il y a des semaines, même l'été, où je ne cours pas du tout 50 km. Là, c'est Marc Cassivi qui parle. Ils en ont conclu que le manque d'exercice était aussi dangereux pour la santé que la cigarette, le diabète et l'hypertension. Être actif ne procure pas seulement des bienfaits à long terme sur la santé physique. Une nouvelle méta-analyse publiée la semaine dernière par JAMA, JAMA Psychiatry, toujours aux États-Unis, à partir d'un échantillon de quelques 600 000 personnes, démontre que l'exercice joue aussi un rôle important dans la réduction du risque de dépression. L'entraînement physique, notamment à la course à pied, Marc Cassivi écrit « Je prends des notes », permet une meilleure circulation sanguine au cerveau et stimule la sécrétion d'endorphines. Pour certains, de l'avis des chercheurs, l'exercice peut être aussi efficace qu'une psychothérapie ou la prise d'antidépresseurs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une stratégie de prévention de la dépression à part entière. À l'aube de la semaine de prévention du suicide, je pense qu'on est dans cette semaine-là,
oui.
Alors qu'il y a été beaucoup question de santé mentale ces derniers jours, c'est une nouvelle encore meilleure que celle que j'évoquais à la blague en début de chronique. C'est aussi une source de motivation supplémentaire. Aujourd'hui, froid ou pas, je vais courir dehors, parce que c'est bon pour le moral. Et tant pis pour la micro-déchirure, que je ne ressens plus, et tant pis pour l'ischio-jambier, que j'aime traduire littéralement de l'anglais « hamstring » par « ficelle de jambon ». Et tant pis pour le vortex polaire qui peut aller se rhabiller. Alors, c'était un extrait de l'article d'une chronique de Marc Cassivi dans la presse du 3 février. C'est bon pour le moral.
Avant le soir, je ne voudrais pas partir trop tard. Cette fois, c'est moi qui cherche une rime avec So Long ou Ciao Bambina. Nous avons tenté l'impossible, avons fouillé ce qui était vide. Dommage que n'est pas le cœur tente, car nous allions si bien ensemble. Mais je tiens à louer. Et je tiens à louer ton enfant de femme pour de vrai. paraîtra grande quand tu ne m'auras plus dans les jambes. Et tu verras, ce n'est pas si drôle, on se campe toujours à des fantômes. N'avions pas besoin l'un de l'autre au point de nous passer nos fautes. Notre aventure arrive au bout, le souffle court, le ventre mou. Mais je tiens à louer tous nos vins et fins poudrés. Et je tiens à louer tous nos vins et fins poudrés. Le vent qui nous soulève de terre n'est plus qu'un simple courant d'air. Ni rage au cœur, ni vague à l'âme, rien à demander à ce rhum. Suis arrivé en bas de page, inutile d'en dire davantage. Chacun reprend sa couverture et son caillou dans sa chaussure. Mais je tiens à louer tous nos vains efforts. Et je tiens à louer tous nos vins et pains poudrés. Mais je tiens à louer.
Louange par Stéphane Escher.
Merci beaucoup. Et là, on passe d'activités physiques qui sont bonnes pour le moral à une remise de médaille.
À une remise de médaille. Oui, la médaille va aux enseignants, la médaille d'or. C'est un texte qui a été écrit par un directeur d'école primaire, une école primaire privée qui s'appelle l'école Saint-Joseph. Et le directeur se prénomme Frédéric, son nom de famille c'est Brazo, et il a un blog, ce Frédéric Brazo, qui s'appelle Les Faits, F-A-I-T-S, enseignants. Mais ensemble, ça fait Les Faits enseignants, parce que c'est connu, Les Faits, E-F-F-E-T, enseignants, c'est un des éléments les plus marquants sur l'apprentissage des élèves.
Vraiment.
Alors voilà, pour la petite histoire.
Jeu de mots.
En cette semaine dédiée à la reconnaissance des enseignants du Québec, je désire, c'est Frédéric Brazo qui écrit, prendre quelques lignes pour saluer à ma façon le travail quotidien qu'ils accomplissent brillamment auprès des élèves qui leur sont confiés. Les enseignants, pour M. Brazo, sont des athlètes de haut niveau. Choisir de devenir enseignant, c'est choisir de courir un marathon chaque année. Bien sûr, il s'agit d'une allégorie et je l'utilise en sachant pertinemment qu'être enseignant, ce n'est pas un exercice purement individuel. L'idée est tout de même là. Peu importe la nature ou l'intensité de l'entraînement, la forme physique au départ ou la qualité de l'équipement du coureur, un marathon reste un marathon, une course de fond où il est important de bien gérer ses énergies et les distractions pour éviter le mur du 30e kilomètre. Mmh. Ainsi, être enseignant, et je dirais au sens plus large, occuper une fonction dans une école, c'est être un athlète de haut niveau qui, chaque année scolaire, tente de se dépasser sur un parcours parfois semé d'embûches. C'est savoir partir tranquillement, mais d'un pas assuré, à tout le moins en avoir l'air. C'est être capable d'affronter des vents de face tout en gardant son rythme. C'est devoir gérer sa faim et sa soif pour éviter les crampes. C'est savoir ralentir ou même marcher si c'est nécessaire, aux endroits ou aux moments opportuns. Finalement, être enseignant, c'est terminer sa course en étant fier de soi. Tant mieux si on a dépassé nos objectifs, mais ce qui importe surtout, c'est d'avoir le goût de recommencer l'année suivante, de se mesurer à un autre parcours, de faire mieux ou différemment. Toutes les motivations sont bonnes pour reprendre l'entraînement en vue d'un prochain marathon. Ouf! Pas toujours facile tout ça. La course peut paraître longue, être éreintante pour certains, voire insurmontable pour d'autres. C'est exactement pourquoi il importe de prendre quelques instants, à l'instar des supporters massés le long du parcours d'un marathon, pour encourager, féliciter, motiver, applaudir, rafraîchir, soutenir ou réconforter. Toutes les raisons et tous les moments de l'année sont bons pour remercier un enseignant et lui donner une tape dans le dos. Mais profitons de cette semaine spécialement dédiée à la reconnaissance de la profession pour souligner les résultats de la première moitié de son marathon. Donnons-lui tout de suite sa médaille d'or. Alors, merci à Frédéric Brazeau pour ce témoignage qui est publié sur son blog qui, je le rappelle, s'appelle « Les faits enseignants » le 3 février dernier.
Un gros, gros, gros merci. Alors, Monique, Marie et moi, on est très impliqués dans des hôpitaux dans les dernières semaines. Et le sujet que tu vas présenter nous intéresse beaucoup. Les médecins devraient-ils prescrire des placebos?
Oui, après, l'effet enseignant, c'est l'effet placebo.
Oui. Et c'est bon pour le moral.
Exactement. Alors, c'est un texte de Mme Isabelle Voutet, qui est professeure à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Et c'est publié sur le site web La Conversation, dont je vous ai parlé déjà il y a quelques semaines, du 18 janvier dernier. Alors, un médicament fonctionne-t-il parce qu'on a dit à un patient qu'il va fonctionner ou en raison de ses réelles actions biochimistes? Alors, c'est là la question qui divise, semble-t-il, la communauté scientifique. L'effet placebo est un phénomène difficile à définir. L'utilisation dans les pratiques cliniques et beaucoup en recherche demeure, semble-t-il, controversée. Au cours des dernières décennies, les scientifiques qui se sont penchés sur ce phénomène ont quand même réussi à identifier certains mécanismes qui sous-tendent leur efficacité. Mais on se pose encore la question, est-ce que c'est suffisant pour permettre aux médecins d'en prescrire? Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? Alors, on observe un effet placebo lorsqu'un individu présente des améliorations de ses symptômes à la suite de la prise d'une substance inerte qui n'a aucun effet pharmacologique prévisible. Les plus communs, c'est les pilules de sucre ou les solutions salines. Des études démontrent que l'effet placebo est un fait réel et qui a des conséquences concrètes sur la physiologie du corps humain. Il y a donc des transformations réelles. Il a même été prouvé que les placebos améliorent les symptômes d'une large variété de maladies. On passe de la douleur chronique au Parkinson à l'Alzheimer. J'en passe pour nommer ensuite les maladies du système immunitaire et endocrinien. C'est quand même pas des petites maladies. On parle aussi de l'homéopathie. Est-ce que c'est un placebo? Parce que la majorité des experts considèrent que les principes d'action de l'homéopathie sont en fait en désaccord profond avec nos connaissances en médecine. Les produits contiennent une infime proportion de substances actives. On ne fait pas une overdose de produits homéopathiques. Aucune étude n'a pu démontrer que les effets bénéfiques de l'homéopathie surpassent ceux observés chez les patients à qui on a prescrit une substance inerte. On peut donc conclure que les bienfaits thérapeutiques de l'homéopathie découlent uniquement de l'effet placebo. Dans les études cliniques, les changements physiologiques qu'on observe chez les patients qui ont été soumis à des traitements, que ce soit homéopathique ou placebo, sont semblables à ceux produits par les médicaments qui contiennent un ingrédient actif. Il y a un phénomène dont il faut parler qui est un peu mystérieux, mais qui est instructif sur les mécanismes d'action des placebos. C'est l'effet nocebo, N-O-C-E-R-S-A-N-T-Q-B-O. Celui-ci se produit lorsqu'une substance inerte entraîne des effets indésirables. À la suite, et ça c'est bien important, d'une suggestion de la part d'une autorité médicale que de tels effets sont possibles. Alors, vous voyez, l'effet, je dirais, autodéterminant.
Oui, 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 tout
certains
à fait.
Croient même que l'augmentation récente que la prévalence d'intolérance au gluten à la prévalence d'intolérance au gluten est un effet nocebo créé par la prépondérance d'informations médiatiques sur les effets prétendus néfastes du gluten. C'est fort, hein, l'influence?
On est crédible, alors.
De fait, l'efficacité d'un placebo change selon les attentes du patient, et ces attentes découlent souvent des différentes informations verbales qui lui sont offertes et qui modifient ses croyances quant à son action possible. Donc, si on croit vraiment que ça va faire effet, ben ça va arriver.
C'est ça.
Il a même été démontré, d'où l'importance de la communication, je vous invite à être très attentif, que certains patients n'ont que peu ou pas d'amélioration de leurs symptômes après avoir été injectés avec une substance analgésique, donc véritable, s'ils n'en ont pas été informés. Seuls les patients qui étaient conscients d'avoir reçu le médicament ont rapporté des bénéfices. C'est fort.
C'est fort, donc, mais ça démontre aussi tout le pouvoir du cerveau là-dedans.
Exactement, exactement. La collecte de données probantes est donc essentielle pour identifier les traitements dont l'efficacité est supérieure au placebo, parce que les placebos ne devraient être prescrits qu'en dernier recours, et ce, accompagné d'une conversation vraiment honnête sur l'aspect dubitatif du traitement. Bon, c'est une chercheure qui nous dit ça.
Oui.
On en fait ce que l'on veut. C'était donc écrit par Isabelle Boutet, qui est professeure à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa, pour le site web de La Conversation du 18 janvier 2019.
Merci beaucoup, Monique.
Les gens rêvent de voyages organisés. Ils collectionnent des images, moi je préfère voir les fleurs pousser. Je prends mon temps, moi je prends mon temps, je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent après l'amour, sans le voir quand il est là. Moi je laisse pas passer mon tour, quand il arrive tout près de moi. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens foncent dans leur voiture, moi je flâne sur les quais. Ils se cassent la figure, moi je vois les filles se balader. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Quand j'ai envie d'une fille, je ne joue pas les Don Juan. Je lui dis, je te trouve gentille, mais rassure-toi, j'ai tout mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent au cœur des villes, moi j'ai su quitter Paris. J'ai débarqué dans une île, c'est de là que je vous écris. Je prends mon temps, moi je prends mon temps.
François Morel, moi je prends mon temps.
Bon, OK. Ah, OK, je pensais qu'il fallait que je prenne mon temps. On attend pour quelques brèves. Monique, vas-y.
Alors, moi, ce n'est pas une brève, mais c'est une capsule linguistique, toujours de M. Guy Bertrand. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut patcher un mur? Oui, bien sûr, on peut patcher un mur.
Dans mon cas, sûrement, oui.
Oui, mais le patch, le patchage, c'est des anglicismes qu'on devrait éviter.
Ah.
Pour exprimer le fait de rendre quelque chose étanche en bouchant une fissure, ben, c'est le verbe colmater qu'il faudrait employer. On peut aussi remplacer patcher, faire des patchages par retoucher ou faire des retouches. Petite dernière remarque, la petite rondelle de caoutchouc adhésive qu'on utilise pour réparer la chambre à air d'un pneu.
Ou le toit
à vélo.
Du stade. Une rustine.
Voilà, c'est une rustine et non pas une patch.
Moi, je change juste la chambre à air, de toute façon. Marie?
Saviez-vous que les enfants issus de milieux défavorisés, notamment ceux dont les parents reçoivent de l'aide sociale, peuvent fréquenter un service de garde éducatif gratuitement 5 jours semaine? C'est un soutien qui est offert aux parents inscrits au programme de solidarité sociale, d'alternative jeunesse, d'objectif emploi et de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs CRI du ministère du Travail.
Oh, quand
voilà,
même.
Quand même.
Le chiffre de la semaine, 25 millions, c'est le nombre de personnes qui visitent les parcs du Canada pendant une année. Juste pour vous dire, mettre en contexte, il y a 35 millions de personnes au Canada.
Mm-hmm.
Mais il y a des visiteurs, évidemment.
Marie.
La neige, encore, c'est le temps qu'il fait quand du yogourt tombe du ciel, selon Angela, 4 ans. Et c'est aussi, selon Ségolène, 5 ans, quand il tombe de la pluie blanche.
Ah oui!
Alors, un gros merci à Maurice Bolduc qui a essayé de mettre un peu d'ordre dans cette émission. Et merci à Monique et merci à Marie pour vos articles. Et on se revoit la semaine prochaine.
Bonne soirée.